Demain, nous mettrons la conférence dans l'après-midi, parce que je dois être à Paris, c'est ce qui me semblait bien. Hier, il me semblait que j'avais quelque chose dans la tête. Je dois être à Paris le soir, parémonial, pour les charismatiques. Demain, nous fêterons Marthe, Sainte Marthe, puis nous fêterons Marthe par en dessous, n'est-ce pas? Alors, je crois que ça doit être une grande fête pour nous. Une très grande fête. Pour demander à Sainte Marthe de recevoir de plus en plus Marthe dans le ciel et que la petite Marthe soit pour nous ce qu'elle a toujours été, mais qu'elle le soit de plus en plus, qu'elle le soit par rapport à tous ceux qui actuellement se posent des points d'interrogation pour savoir s'ils vont entrer ou pas entrer dans la communauté. C'est un moment, vous savez, de détermination pour beaucoup. Et il faut demander à Marthe d'être là pour continuer son œuvre. Vous vous souvenez, la troisième année, on était 15. Il y en a 15 qui se sont présentés. Alors j'ai dit à Marthe, c'est un peu beaucoup. 15 qui reçoivent 15. Et alors Marthe a simplement dit, mes pères, où est-ce qu'ils iraient si vous ne les recevez pas? Alors il faut demander à Marthe de continuer son rôle d'envoyer à la communauté Saint-Jean ce que la divine providence veut qu'on reçoive. Et ça, je tiens beaucoup à ce que nous tous nous demandions ça à Marthe. Je crois que c'est important de comprendre que notre vocation est dans sa prière. La prière des saints fait partie de la prédestination. Alors, ceux qui ont connu Marthe, ils savent que la prière de Marthe est dans leur prédestination. De la chance, ceux qui l'ont connu de proche, ceux qui l'ont connu de loin, ou par la relation, du fait même qu'ils entrent dans la communauté, puisque Marthe la protège, la garde sous sa dépendance. Je crois qu'on peut dire que par le fait même, on est dans sa prière. Et c'est important de se mettre dans sa prière. Je vous rappelle ça parce que c'est bon d'y penser dès ce soir, vous comprenez? Pour que demain, dans votre oraison, vous puissiez penser spécialement à ce grand mystère qui nous enveloppe. Nous avions commencé hier à regarder le troisième moment dans ce début de l'évangile de Saint Jean. Jésus est l'agneau. L'agneau qui porte l'iniquité du monde. Jésus est l'époux qui a l'épouse et l'époux. Les deux grandes lumières de Jean-Baptiste. Les deux grandes lumières de l'Apocalypse. C'est impressionnant du reste. C'est peut-être parce que Jean l'a eu à l'Apocalypse que Jean s'est souvenu d'une manière très étonnante de ce que Jean-Baptiste avait dit. C'est très possible. On le saura dans le ciel. Ça ne m'étonnerait pas du tout. La secousse que Jean a reçue de l'Apocalypse va rappeler des choses qui lui avaient été dites. Ça arrive très souvent, ces choses-là. Des choses qu'on a reçues quand on était jeune, qui sont là présentes, mais qui dorment un peu, hein. Et puis subitement, la grâce de Dieu illumine en se disant, mais c'est vrai, vous m'avez dit ça, et je n'avais pas compris. Ça ne m'étonnerait pas du tout, vous voyez, qu'il y ait, parce qu'au fond, il y a deux sources dans l'évangile de Jean. Il y en a trois, si vous voulez. Il y a le Saint-Esprit, c'est bien évident, source principale. Seconde source, Jean-Baptiste. Troisième source, Marie. C'est, je crois, les trois sources qui commandent un peu tout l'évangile de Jean et qui nous aident à comprendre. Alors, il y a des sources plus ou moins profondes. Hein. Vous voyez bien, la source de l'Esprit Saint, elle enveloppe les deux autres. Jean-Baptiste, c'est l'histoire. C'est dans l'histoire. Et ce début de l'évangile de Saint Jean est tellement grand à ce point de vue-là, parce que c'est le point de vue de la prédication de Jean-Baptiste qui est présente. Et Jésus s'est servi de la prédication de Jean-Baptiste. C'est très étonnant, ça. Les synoptiques ne nous montrent pas ça du tout. Mais Jésus s'est servi de la prédication de Jean-Baptiste. Il s'est servi de la prédication de Jean-Baptiste pour le choix de ses apôtres. Et c'est quand même important de voir cela. Et parmi ses apôtres, il y a Jean. Il y a André. C'est quand même beau, Jean et André, qui dépendent directement de Jean-Baptiste. Pierre, non. C'est quand même mystérieux, ça. Hein? Jean et André, Jean-Baptiste. André, c'est tout l'Orient. Jean-Baptiste. Et Jean, c'est l'Orient, mais l'Orient qui passe vers l'Occident. C'est ça, Jean. C'est un passage très très mystérieux entre l'Orient et l'Occident. Ça s'est fait par Jean. Saint Irénée, disciple de Polycarpe, disciple de Jean. C'est pour ça que nous avons un Polycarpe, hein. Faut bien, un disciple de Jean. Et un Irénée, on n'en parle pas, n'est-ce pas? Mais c'est sûr. Et oui, nous sommes tellement proches de Lyon. Alors, c'est pas étonnant. C'est que la Providence vous a rapproché. On voulait être tout proche, on a dit non, mais on s'est rattrapé par l'autre bout, n'est-ce pas? C'est vrai, on voulait plutôt autre chose, et puis non, la Providence vous a mis là. Il y a sûrement des raisons, vous savez, on verra ça. On ne pouvait pas appeler le nouveau couvent Saint-Irénée, ça n'aurait pas été, Irénée bis. Non, ça ne pouvait s'appeler qu'autrement, Saint-Joseph, c'est plus radical. N'est-ce pas? Mais on voit comment la Providence conduit. Et c'est beau de voir ça. Jean, il fit le lien entre l'Orient et l'Occident. Les Reims, l'Orient entre l'Orient et l'Occident, on sait très bien. Le lieu de passage entre les deux. Et nous devons, nous, par Saint Jean, être liés à l'Orient, liés à l'orthodoxie, liés aux pères grecs, on doit les aimer particulièrement. C'est pour ça qu'en philosophie, nous aimons les Grecs, pour nous préparer aux pères grecs, vous comprenez? Parce que si on n'aimait pas la philosophie grecque, on ne comprendrait rien du tout aux philosophes, aux pères grecs, tandis que si on est déjà orienté de ce côté-là, c'est beaucoup plus normal de continuer un tout petit peu cette orientation. C'est vrai, on doit être lié à cela. Je crois très fort, parce que Jean fait le lien. Alors c'est quand même très beau, sous la secousse de l'Apocalypse. Ça a dû secouer le cœur de Jean, ça, l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, l'agneau. Vous savez, quand il voit l'agneau dans l'Apocalypse, je crois qu'à ce moment-là, le rôle de Jean-Baptiste devient quelque chose d'extraordinaire. Dans le temps et dans l'éternité. L'Apocalypse nous montre l'agneau dans l'éternité et Jean-Baptiste dans le temps. Mais c'est un lien entre les deux, c'est les deux mystères. L'agneau qui porte l'iniquité du monde, l'agneau comme égorgé. Alors l'agneau comme égorgé, vous voyez, c'est ça qui est aussi très très fort. Le double témoignage. Jean-Baptiste témoigne de l'agneau et Jean témoigne de l'agneau égorgé. Et l'Apocalypse nous montre l'agneau égorgé. Et puis l'Apocalypse nous montre les noces de l'Église, de la Jérusalem céleste avec l'agneau. Et donc l'agneau comme époux. Et à ce moment-là, Jean comprend mieux comment l'époux est révélé au milieu des luttes, au moment où les disciples de Jean-Baptiste, ça ne devrait pas être très drôle, était en pleine crise. Il y a des moments comme ça, hein, en pleine crise. Et ils jugeaient leur maître. Ils le critiquaient. Il avait agi avec imprudence, puisque tout le monde allait vers Jésus. Pour les disciples de Jean-Baptiste, c'est pas drôle de voir que tout le monde va vers Jésus. Et c'est à ce moment-là où Jean-Baptiste, au milieu de la souffrance, hein, voir ses disciples qui ne le comprennent plus, qui n'ont plus une confiance totale en lui. C'est à ce moment-là où Jean-Baptiste, mu par l'Esprit Saint, de nouveau, découvre l'épeau. L'agneau, c'est l'épeau. Et puis, en troisième lieu, Jésus se révèle comme le Fils bien-aimé du Père. Chapitre 5, verset 19. Alors réfléchissez beaucoup sur ces trois aspects. Deux, dans la lumière de Jean-Baptiste, qui résume toute l'Ancienne Alliance. Au fond, toute l'Ancienne Alliance est résumée de cette manière-là. C'est génial, hein, de la part de Jean-Baptiste. Les deux crêtes de l'Ancien Testament. L'agneau, le grand leitmotiv de l'Ancien Testament, l'agneau et l'épeau. L'agneau est le leitmotiv le plus fondamental de tout l'Ancien Testament. À partir d'Isaac. L'époux, c'est aussi à partir d'Abraham. Chez Abraham, il y a les deux. À partir de la circoncision qui est liée à l'époux, qui est liée à l'époux de sang. Et alors les prophètes qui mettent en pleine lumière d'oser au cantique des cantiques, comme dit le Père Feuillet. Et le Père Feuillet souligne ça, alors c'est très beau, d'oser au cantique des cantiques, et puis ensuite Jean-Baptiste. On voit très bien comment les deux grands leitmotifs, hein, les deux grandes visions des prophètes de l'Ancien Testament, le mystère de l'agneau, le mystère de l'époux, sont repris par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste doit nous aider à faire l'exégèse de l'Ancien Testament, vous voyez. C'est un merveilleux conseiller, c'est intelligent et il est pauvre, donc il ne cherche que la vérité. Il ne cherche rien pour lui. Il a accepté d'être décapité. Il a mis la vérité avant lui. C'est ça, Jean-Baptiste. C'est un pauvre. Et donc sa vision qu'il a de l'Ancien Testament est merveilleuse, de voir ces deux aspects, l'agneau, l'épeau. Et Jésus qui se présente comme le Fils bien-aimé du Père. Et voyez, là, Jean reprend à sa façon, d'une façon très très belle, ce qui était dit dans les synoptiques, que lui-même n'a pas souligné de la même façon. Quand il a eu cette vision au désert, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui pour lequel moi j'ai dit, après moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe venant du ciel. Il a demeuré sur lui. Il voit le mystère de l'agneau, le mystère de la colombe et le mystère du Père qui est caché. Et Jean ne reprend pas ce qui est dit dans Saint Luc et dans les synoptiques. L'alliance qu'on voit au moment du Tabor, on voit aussi au moment du baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Jean ne le dit pas, mais ce que nous voyons ici explique théologiquement, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Je crois qu'il faut faire le parallélisme, parce que c'est très important ça. Ceux qui aiment Bethléem savent que c'est cela qui est au cœur de toute la vocation de Bethléem. Ici, on peut le dire, parce qu'on est en famille. Et c'est au cœur. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Alors, c'est très beau de voir que Jean, voyez, sans le dire, reprend le même mystère. Si vous voyez ce verset 19, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, car ce qui fait celui-là, le Fils aussi le fait pareillement. » Celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, c'est bien ça, mais toutes ces complaisances en quelqu'un, c'est lui demander de réaliser ce que nous voulons nous-mêmes réaliser, mais nous le laissons l'autre le réaliser. C'est ça un ami. Un véritable ami, c'est ça. C'est lui qui réalise pour nous. Et on lui demande de réaliser pour nous. Parce qu'on l'aime. Le Père, en effet, aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. C'est en raison de l'amour qu'il y a cette coopération. On ne coopère vraiment comme l'ami que quand on aime quelqu'un. Et plus l'amour est fort, plus la coopération est intense. Et là, l'amour est substantiel entre le Père et le Fils. Et donc la coopération peut être une coopération qui ira jusqu'à la mort de la croix et la gloire. Et c'est bien ce qu'il nous est montré. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore que celles-ci pour que vous soyez étonnés, pour que vous soyez dans l'admiration, pour que vous puissiez contempler. Soyez dans l'admiration, c'est-à-dire contempler. Vous savez bien, les pères du XIIe siècle disent toujours qu'au point de départ de la contemplation, c'est l'étonnement, c'est l'admiration. Quand on n'admire plus, on ne peut plus contempler. C'est pour ça que dans notre monde difficile, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est si difficile de contempler, parce qu'il n'y a plus d'admiration. On est tous des petits vieux, très vite, hein, on a tout vu, tout vu. On est blasé, complètement blasé, on a tout vu. Il n'y a plus d'admiration, plus un pouce d'admiration. Et on ne peut plus contempler. On peut analyser, on peut méditer, on peut faire des découvertes dans la méditation. Non, on n'admire plus. L'admiration, c'est vraiment ce qui nous dispose à la contemplation. L'admiration, c'est une œuvre d'amour. Ça nous permet de rester bouche bée, hein. Quand on admire, on dit encore, et on veut aller plus loin. Et c'est pour ça que c'est indispensable à la contemplation. Il ne faut pas l'oublier. L'attitude d'admiration est nécessaire. L'adoration, l'admiration, la contemplation. Entre l'adoration et la contemplation, il y a la phase d'admiration. Il faut être dans cette attitude d'étonnement pour pouvoir contempler. Et pour qu'on soit dans cette attitude d'étonnement, il faut justement vivre dans ce que l'adoration permet. L'adoration nous remet en contact avec la source de notre être. Et alors, dès qu'on adore, on est dans cet état de celui qui naît. Et celui qui naît, il est capable d'être en admiration. Et celui qui est en admiration, il est capable de contempler. C'est très très fort pour comprendre cette affirmation du Père à l'égard de son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Eh bien, toutes les complaisances sont expliquées par ces quelques versets. Et donc, ces quelques versets sont au cœur de toute la Nouvelle Alliance. C'est Jésus qui, par Jean le théologien, explique toute la Nouvelle Alliance. Toute la Nouvelle Alliance est expliquée ici. Et on comprend que ce soit comme au terme de ce premier moment des éclosions, où Jésus nous fait entrer dans l'intention profonde de son cœur, de fils bien-aimé, d'envoyé du Père, et donc l'intention profonde de son sacerdoce. Et pour nous, ça doit être très précieux. Je comprends que Bethléem prenne celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, et nous, nous prenons ça. Voyez bien. Et c'est très beau. C'est très beau, parce que c'est le théologien qui explique cette affirmation du Père, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Il faut relire souvent ça. Ces paroles sont très importantes pour nous, pour comprendre ce que doit être notre vie apostolique. Notre vie apostolique, elle doit être dans cette lumière, hein, puisque nous devons y réfléchir. Eh bien, il faut y réfléchir en prenant ces versets et en essayant de comprendre tout le poids de ces versets, tout le poids de cette intention apostolique. C'est bien ce qu'il y a de fondamental dans la vie apostolique de Jésus. Ce qu'il y a de fondamental, c'est lui-même qu'il révèle. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Vous voyez, si nous n'avons pas cette conviction au point de vue apostolique, on fait son œuvre. Et ça ne tient pas. Ça tient un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix au plus. Mais ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir. Hein, parce que c'est une chose temporelle. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait celui-là, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà notre unique désir, c'est de faire ce que nous voyons faire au Père. Vous voyez l'exigence de la contemplation, c'est de regarder le Père. Et c'est vrai, c'est ça la contemplation, c'est de regarder le Père et ce que le Père fait. Et pour pouvoir contempler le Père en effet aime le Fils. Il faut vivre de cet amour gratuit, de cet amour qui nous est donné. Et il montre tout ce qu'il fait, on sait très bien. C'est ça notre contemplation. Relisez souvent cette phrase au début de votre méditation, de votre contemplation du matin. Ça vous aidera, je vous affirme. Redites ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'entrer dans cette intention profonde du cœur de Jésus qui nous révèle pour la première fois, c'est pour la première fois dans l'évangile de Saint Jean, sa filiation. Il faut beaucoup aimer ça. Il faut comprendre que c'est une révélation qui nous est donnée, cette filiation. C'est ça la contemplation, c'est de vivre cette filiation et de pouvoir dire « Abba, Pater ». C'est pour ça que saint Thomas dit, hein, quand nous disons « Abba, Pater », nous entrons dans ce qu'il y a de plus intime dans le fruit du don de sagesse. Le don de sagesse nous fait dire « Abba, Pater ». Et quand nous disons « Abba, Pater », nous vivons de ce qui nous est montré ici. Le Père, en effet, aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Notre contemplation chrétienne, c'est de vivre du don de sagesse. Et le don de sagesse nous fait dire « Père ». Et il lui montrera des œuvres plus grandes encore que celles-ci, pour que vous soyez étonnés, durant cette année sainte. Durant cette année jubilaire, le Saint-Père nous demande de regarder ses œuvres plus grandes. Passer de la guérison du paralytique à la résurrection de Jésus. Le jour du sabbat, ou plutôt Jésus a été très poli dans sa résurrection. Il n'est pas ressuscité le jour du sabbat. Parce que c'est l'œuvre par excellence. Mais c'est très très joli de voir ça. Il est ressuscité juste durant la nuit. Alors, durant la nuit, on devait encore le respecter. est resté pour Marie. Et l'apparition, c'est après le sabbat. Et la résurrection pour Marie devance. Il ressuscite. Et donc, c'est beau de voir ça, parce que ça nous fait comprendre l'œuvre de la sagesse, et ça nous fait comprendre le regard que nous devons avoir sur le Père. De même, en effet, que le Père relève les morts et les fait vivre. Ainsi, le Fils fait vivre ce qu'il veut. Et donc, lui-même, hein, vous savez, c'est une des questions aujourd'hui qui, paraît-il, est assez disputée. On m'a dit ça l'autre jour. On apprend toujours quand on fait des retraites de droite ou de gauche. Alors, il y avait cette objection, c'était à Poissy, cette objection de quelqu'un. Doit-on dire que seul le Père a ressuscité Jésus ? Ou doit-on dire que Jésus s'est ressuscité lui-même avec le Père ? Alors, je vais pousser un tout petit peu mon enquête. Hein. Quand on a ces questions-là, on a bien l'impression qu'il y a... C'est des gens qui répètent, hein. Ils n'ont pas découvert ça tout seuls. Alors, il doit y avoir derrière quelque chose. Alors on a dit, oui, ça se dit beaucoup aujourd'hui. Elle se dit, ah bon, très bien. Alors voyez, cette petite phrase. De même, en effet, que le Père relève les morts et les fait vivre. Ainsi, le Fils fait vivre ce qu'il veut. Qui il veut. Voilà la réponse. Elle est dans Saint Jean. Le mystère de la résurrection, c'est l'œuvre du Père et c'est l'œuvre du Fils. Parce que le Père lui a remis toute autorité. Et l'autorité ultime, c'est le mystère de la résurrection. Si vous ne dites pas ça, vous supprimez que le Père ait remis au Fils toute autorité. Le sacerdoce du Christ est un sacerdoce qui conduit à la résurrection. C'est beau. Le sacerdoce du Christ ne fait pas que pardonner, il conduit à la résurrection. C'est un sacerdoce qui permet de relever les morts et de les conduire à la résurrection et à la glorification. Et c'est vrai, le sacerdoce du Christ, l'Épître aux Hébreux nous montre, il pénètre dans les cieux. Et s'il pénètre dans les cieux, il ne se termine pas sur la terre. Le sacerdoce lévitique se termine sur la terre. Tout sacerdoce qui est bâti sur la vertu de religion est un sacerdoce qui est uniquement au niveau du conditionnement humain. Mais le sacerdoce qui est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui est un sacerdoce du Fils bien-aimé, c'est un sacerdoce qui vient d'en haut, c'est un sacerdoce qui se fonde sur l'amour. Et donc c'est un sacerdoce éternel, sacerdoce qui pénètre dans le Saint des Saints, pénètre dans le mystère même de la gloire de Dieu et de la gloire de la très sainte Trinité. D'un sacerdoce de gloire, le sacerdoce du Christ, d'un sacerdoce de gloire. Ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, tout le jugement il l'a remis au Fils. Donc le Père ne ressuscite personne maintenant seul. Il agit toujours avec le Fils. C'est dit. Car le Père ne juge personne. Il le peut, mais volontairement, il laisse le Fils passer devant. La politesse du Père, c'est de laisser le Fils passer devant. L'amour du Père, il laisse passer le Fils devant. Car le Père ne juge personne. Tout le jugement, il l'a remis au Fils. Tout le jugement, tout discernement. Hein, traduisez ça tout le temps comme ça. Parce que le jugement, pour nous, ça ne va pas très bien. Mais c'est le discernement. Le Père ne discerne personne. Ne fait le discernement à l'égard de personne. Tout jugement, tout discernement, il l'a remis au Fils. Pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Voilà la finalité. Alors là, vous saisissez ce que c'est que le sacerdoce du Fils. Hein. Voyez comment le Père veut que le Fils soit glorifié comme Fils, soit glorifié dans son sacerdoce royal. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. On ne peut pas séparer les deux. Dieu a uni d'une façon si intime l'autorité du Père et l'autorité sacerdotale de Jésus, il les a unis d'une manière telle qu'on ne peut plus les séparer. Donc ça, c'est le premier passage si important pour nous du lien entre le Fils et le Père. Il faut que nous l'aimions beaucoup, ça. C'est au cœur de toute notre vocation. C'est au cœur de toute notre vocation. Si nous voulons comprendre la prière sacerdotale, il faut regarder ça. C'est le fondement de toute la prière sacerdotale. Et c'est Jésus lui-même qui nous dit ça. Et le point de vue théologique, c'est toute la grande théologie de l'incarnation. Et vous voyez que cette théologie de l'incarnation est liée tout de suite à la rédemption, ce qui est aussi très important. C'est une des visions très nettes de saint Thomas, cela. C'est très joannique. Ça peut pas être autrement. C'est immédiatement lié au mystère de la gloire. Alors, second moment, en vérité, je vous le dis. Je vous dis que celui qui écoute ma parole et croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Alors, mystère de foi lié à la vie éternelle, lié à la connaissance que nous devons avoir de Dieu. Nous ne pouvons avoir la vie éternelle que si nous connaissons Dieu. Mais connaître Dieu, justement, connaître le Fils dans le Père, in sinu patris. Connaître le Fils en tant qu'il est dans le sein du Père. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc notre justification se fait dans cette foi vivante et dans cette foi contemplative. En vérité, je vous le dis. Je vous dis qu'elle vient, l'heure, et c'est maintenant. Alors, je crois qu'ici, c'est le troisième moment, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. C'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Je vous le dis qu'elle vient, l'heure. Alors, c'est beaucoup plus difficile, vous voyez, exprimer. Hein, ça reste voilé. On ne le verra vraiment qu'en voyant le chapitre 14. C'est normal. Nous sommes encore dans une recherche, puisque nous sommes au point de départ de l'évangile de saint Jean. Je vous dis qu'elle vient l'heure, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils. Et ceux qui auront entendu vivront. Alors n'oubliez pas que la voix dans saint Jean, c'est toujours l'Esprit Saint. C'est pour ça que je vous dis que ce troisième moment, c'est réservé à l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, selon l'évangile de saint Jean, c'est la voix. Ce n'est pas la parole. La parole est réservée au Fils. C'est le Fils qui parle. Et l'Esprit-Saint nous fait vivre de toutes les paroles du Fils en nous faisant entendre sa voix. C'est l'Esprit-Saint qui est la voix du Fils et du Père. Alors comprenez bien l'analogie, c'est facile à comprendre, surtout quand on regarde le prologue. Hein. Quand on regarde le prologue de saint Jean, et le prologue éclaire tout l'évangile, on voit bien que Jean lui-même fait la distinction dans le prologue entre le Verbe, la parole et la voix. La voix, c'est la communication de la parole. Alors on peut avoir une voix cassée, on peut avoir une voix rauque, une voix désagréable, ça existe. Même quand on a un cœur qui est pur, on peut avoir une voix, c'est pas toujours en harmonie, ça fait partie de cette dissociation, conséquence du péché, entre l'âme et le corps. S'il n'y avait pas une conséquence du péché, notre voix serait toujours en harmonie de notre âme. Alors vous voyez, on aurait des voix angéliques, hein. Tous, ce sera merveilleux. Pas de problème de liturgie. On aurait tous des voix angéliques. Et on opterait tous pour ce qu'il y a de plus angélique. Et ce qu'il y a de plus vrai. On comprendrait tout de suite. Parce que c'est vrai qu'il y a une dissociation entre le point de vue de la voix et le point de vue de la contemplation. Et il faut rétablir cette harmonie. Et ça, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait l'harmonie. Vous voyez, l'art chrétien, c'est l'Esprit Saint. C'est très très important pour nous. La voix. La voix est liée au cœur. C'est lié au cœur, la voix. C'est lié à notre cœur. Tandis que le point de vue de la parole, c'est lié à l'intelligence. La parole, c'est la signification. La voix, c'est ce qui enveloppe la signification. Je peux dire la même parole dans des tonalités très différentes. C'est vrai. Et je peux donc dire la même parole avec une affectivité très différente. Et cette affectivité du matin et du soir, de midi et de la nuit, n'est-ce pas, c'est d'affectivité très importante, cette affectivité, parce que c'est la transmission. C'est par l'affectivité que je transmets. Aujourd'hui, on croit que c'est le contenu. Non, c'est faux. Il n'y a plus assez d'amour dans le monde. C'est pour ça qu'on se pose seulement le problème de la communication. Parce que si on aimait beaucoup, il n'y aurait pas de problème. Vous vous êtes posé le problème de la communication quand vous aimez quelqu'un? Non, c'est rien du tout, je l'aime beaucoup, il comprendra ça tout de suite. Ah, je l'aime pas, ça va être difficile, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais tourner ma phrase pour qu'il l'apprenne bien. On voit très très bien que dès qu'on aime quelqu'un, immédiatement, grâce à la chaleur du cœur, la communication se fait tout de suite. Et la parole est là, la voix est là pour être, vous voyez, la nuée qui enveloppe la parole. Et la nuée qui enveloppe la parole, c'est la voix. Et l'Esprit-Saint, c'est la voix. C'est celui qui met la chaleur, qui transmet la parole et qui permet à la parole de pénétrer, d'aller plus loin. Vous voyez comme la liturgie est liée à la voix, pour permettre à la parole d'avoir toute sa force. Parce qu'on glorifie Dieu avec la parole de Dieu. Et nous devons être attentifs à la voix pour communiquer la parole de Dieu. Nous devons être attentifs à ça. Et je vous dis, c'est johannique ça. Hein? Alors, c'est très important. C'est très important pour nous de comprendre que, selon saint Jean, la voix, c'est l'Esprit Saint. Très, très important ça. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire ce troisième moment, vous voyez, c'est lié à l'Esprit Saint, c'est lié à la communication. En vérité, je vous le dis, qu'elle vient l'heure. Et ça, c'est maintenant. Tout le temps de l'Église, c'est maintenant. C'est ce temps où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Par l'Esprit Saint. Et ceux qui auront entendu vivront. Voilà la catéchèse. Elle est là. Le secret. C'est le secret, ça. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. C'est là le secret. Et le secret est lié à la voix. Quand on aime beaucoup, on demeure souple et on s'adapte. Quand on n'aime plus, on est rigide et on prend des méthodes qui veulent remplacer l'amour. C'est important de comprendre ça dans notre vie. Parce que quand on aime beaucoup, on demeure souple et on s'adapte avec une souplesse énorme. On aime de parler aux tout petits. Parce que là, on peut laisser parler son cœur. Et si notre cœur est sec, on se dit comment les petits ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler avec la télévision, et donc il faut que je me fasse télévision pour leur parler. On oublie quand même qu'au-delà de la télévision, il demeure ordinairement le cœur d'une mère. C'est tellement significatif, ça. Vous voyez ça même dans les cœurs les plus durs. Quand vous arrivez à réveiller le premier moment du cœur d'un homme, je ne parle pas du cœur d'une femme, parce que c'est encore plus facile d'une certaine manière, mais le cœur d'un homme durci par la lutte, durci par les injustices. Et que vous arrivez à reprendre ce premier moment, vous verrez que la plupart du temps, ce premier moment, c'est le contact de la mère, ou le contact de quelqu'un qui a remplacé la mère. Très rare que c'est le contact avec le Père. C'est le contact avec la Mère. Alors, on voit bien que c'est une parole pleine d'amour C'est une parole aimante. Parce que la mère, ordinairement, est mère quand le tout petit enfant est tout petit. Quand l'enfant grandit, c'est différent. Mais quand elle est toute petite, et au fond, c'est ça qu'on doit rappeler, qu'on doit apprendre. Si vous ne devenez comme des tout petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Jésus nous indique comment communiquer la foi. C'est redécouvrir ce premier moment où l'intelligence est vraie. Et l'intelligence est vraie quand elle naît dans l'amour. Une intelligence qui ne naît plus dans l'amour devient une intelligence logique, une intelligence systématique, une intelligence méthodique. C'est plus une intelligence. Une intelligence à sa source est une intelligence liée à l'amour. Et c'est ça qu'on doit redécouvrir. Vous voyez, une intelligence qui est liée uniquement à la télévision. Un enfant qui très très vite apprend tout par la télévision. Il y aura toujours quelque chose qui lui manquera. C'est la chaleur de l'amour de la mère, du père, d'un grand frère qui lui parle. C'est une parole qui est séparée de sa source. C'est très vrai, c'est une parole qui est séparée de sa source. La source, on ne peut pas la donner. Alors, je crois que c'est très important pour nous, vous voyez, de penser ces choses-là, parce que si on veut aller jusqu'au bout de la réflexion vis-à-vis de la catéchèse, et nous devons réfléchir théologiquement sur ce que c'est que la catéchèse, et comment nous devons dans notre monde d'aujourd'hui y réfléchir dans la lumière de Saint Jean, puisque nous sommes consacrés à Saint Jean, et que nous croyons que Jean doit nous permettre d'aller très loin et de découvrir cela. Je crois que c'est dit ici la voix du Fils de Dieu. L'heure, elle vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu vivront. Nous devons, par notre sacerdoce, actuel ou futur, par notre sacerdoce royal, par notre sacerdoce royal qui est lié au sacerdoce royal de Marie et donc qui est toujours maternel, nous devons avoir le sens du premier réveil de la foi et de remettre ceux qui ne croient plus, du moins qui disent qu'ils ne croient plus, ceux qui ne pratiquent plus, ceux qui n'exercent plus la foi, mais qui ont été baptisés. Il faut que nous les remettions dans ce premier moment de leur foi. C'est ça qu'on doit faire, renaître la foi. Concile d'Orange, hein, n'oubliez jamais. Concile d'Orange, point de départ de la foi. Pour nous, c'est très important. On connaît la définition de la foi de Vatican I, parce que c'est tout proche de nous. Mais le Concile d'Orange, c'est plus loin. Et je crois que c'est ça que nous devons regarder attentivement. L'initium fidei. Nous aurons affaire à des gens qu'il faut redonner la foi. Ils sont morts. Ils sont morts. Quand on a affaire à ceux qui vivent très bien, alors à ce moment-là, c'est plus facile d'une certaine manière, on peut aller très loin dans l'explication de la parole de Dieu. Mais quand il s'agit de redonner la foi, et c'est bien ça qui nous est montré ici, hein, ceux qui auront entendu vivront. Apprendre à entendre la voix du Fils de Dieu. Le croyant, c'est celui qui entend la voix du Fils de Dieu. Et c'est celui qui est capable d'entendre. Et il faut aider à entendre la voix du Fils de Dieu. Tout est là. C'est le premier amour, la pia affectio, cet amour profond qui incline l'intelligence, transformé par la foi, à recevoir la parole de Dieu. On ne peut entendre la voix du Fils de Dieu pas après. Et plus nous découvrons la source, plus nous aimerons la somme théologique de saint Thomas à sa place de théologie scientifique et non pas du tout comme source de contemplation. La contemplation, c'est quelque chose qui jaillit directement de l'Esprit Saint et de notre cœur, de notre intelligence, transformée par la foi, et de notre cœur transformé par la charité. C'est une œuvre commune avec l'Esprit Saint. Et c'est ça qui est si grand. C'est une œuvre commune avec l'Esprit Saint. La contemplation, c'est l'œuvre commune de l'Esprit Saint et de nous-mêmes. Nous réalisons quelque chose qui est l'œuvre commune de l'Esprit Saint et de nous. De même, en effet, que le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné pareillement au Fils d'avoir la vie en lui. C'est aussi très beau. Alors, la vie, c'est encore l'Esprit. Hein, la voix et la vie, les deux symbolisent qui constamment regardent au point de vue de l'Esprit Saint qui vivifie l'Église. L'Esprit Saint qui est source de vie dans l'Église. Alors vous voyez ici, c'est aussi très fort, si on sait comprendre un peu la densité de ces paroles. De même en effet que le Père a la vie en lui-même, il est source de toute vie. Ainsi a-t-il donné pareillement au Fils d'avoir la vie en lui. Et donc le Fils est aussi source de vie, comme le Père. Et tous les deux sont source de l'Esprit Saint. Il lui a donné pouvoir pour exercer le jugement. Alors ça, c'est aussi très étonnant. C'est que le jugement, le discernement, est lié à la vie. Ainsi a-t-il donné pareillement au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir pour exercer le jugement. Parce qu'il est Fils d'homme. Donc, le jugement, le discernement que le Père donne au Fils présuppose que le Fils a la vie en lui. Et si le Fils a la vie en lui, ça prouve qu'il est avec le Père et dans le Père, source de l'Esprit Saint. On peut le dire, ça. Et donc, le discernement du Fils s'accomplit dans la lumière de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui réalise ce discernement. Et ça, c'est vrai, hein, c'est l'Esprit Saint qui réalise le discernement. Quand nous manquons de discernement, c'est parce que nous n'avons pas assez invoqué le Saint-Esprit. Si on avait invoqué plus le Saint-Esprit, on n'aurait pas manqué de discernement. Le Saint-Esprit nous donnera quelquefois le don de conseil pour aller demander un docteur de la loi, pour aller demander à un théologien, ce qu'il a fait comprendre à la grande sainte Thérèse, hein, de demander à un théologien plutôt que même à un saint. Oui, c'est extraordinaire le Saint-Esprit. Hein. Si j'avais été à la place du Saint-Esprit, j'aurais dit demander plutôt le discernement à un saint qu'à un théologien. Non, sainte Thérèse dit l'inverse. Mais un vrai théologien, hein. Un théologien qui est un contemplatif, un théologien qui tend vers la sainteté. Sainte Thérèse n'a jamais dit un professeur de théologie. Jamais. Jamais. Elle a dit un théologien. Un théologien, c'est un contemplatif pour Sainte Thérèse. Un théologien pour l'Orient, c'est un contemplatif. Donc, c'est celui qui a le sens de la parole de Dieu et le sens d'une foi qui a la vie éternelle. Alors vous voyez, c'est très beau de voir ça. Hein. Il lui a donné pouvoir pour exercer le jugement parce qu'il est fils d'homme. Parce qu'il est fils d'homme et parce qu'il a la vie en lui, les deux raisons. N'en soyez pas étonnés, parce qu'elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ils sortiront ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, et ceux qui auront commis le mal pour une résurrection de condamnation. Ceux qui n'acceptent pas les peines éternelles de l'enfer vont contre ce qui nous est montré ici. Parce que c'est net que Jésus parle d'une double résurrection. D'une résurrection de gloire, une résurrection de vie. Donc, dans la gloire de l'Esprit-Saint. Et une résurrection de condamnation. Vous comprenez bien que si l'enfer n'était pas éternel, il n'y aurait pas de résurrection de condamnation. La résurrection de condamnation est là pour nous faire comprendre que, de fait, il y a nécessairement une condamnation. Ça fait partie du mystère de la justice. C'est pas ce qui est dernier. Ce qui est dernier, c'est la résurrection de vie. C'est ça qui est l'essentiel. La résurrection de condamnation, c'est pas premier. C'est toujours relatif à l'autre. Je ne puis, moi, rien faire de moi-même. Alors Jésus reprend ce qui avait été dit au début. Je crois que le premier cycle est terminé. Et ici, nous tombons dans un second moment. Le premier est trinitaire, hein, c'est ça qu'il faut saisir. C'est la révélation de la très sainte Trinité à l'intérieur de Jésus. Il est le temple de la très sainte Trinité. Et lorsqu'il parle avec autorité, il parle au nom des trois. Et donc il nous révèle nécessairement le mystère de la très sainte Trinité. Oui. C'est en ce sens-là où, quand Chouraki dit, quand il traduit Saint Jean en hébreu, et qu'il commente l'évangile de Saint Jean, et qu'il nous dit que l'évangile de Saint Jean ne contient rien de plus que ce qui est dit dans l'Ancien Testament, c'est là où nous voyons qu'il n'a pas compris. Quand Jésus dit « nous parlons de ce que nous savons et de ce que nous avons vu », c'est Jésus lié au Père, lié à l'Esprit-Saint. C'est Jésus qui parle au nom de la très sainte Trinité. Et c'est donc le mystère même de la très sainte Trinité qui est révélé à travers la théologie de Jésus, à travers l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus est trinitaire. Vous voyez, quand on voit la très sainte Trinité, vous verrez pour les théologiens l'année prochaine, le mystère de la très sainte Trinité, on vous le montrera dans la lumière de saint Thomas. Et il faut que vous, à travers la lumière de saint Thomas, vous remontiez à tous les discours trinitaires qui sont dans saint Jean. Et que vous arriviez à découvrir, à travers ces discours de saint Jean qui sont trinitaires, le fond contemplatif, la pensée de saint Thomas.